encore 10 minutes pour notre discussion. Quelqu'un veut-il poser une question? Ça se voit, je crois. Mais ma question est dirigée à Louis-Antoine et je vais essayer de ne pas trop parler, en plus à cause de ma voix. Mais pendant que vous parliez de Foucault et ce que vous en retirez comme essence de la pensée fasciste, je me suis souvenue d'une situation personnelle et ma question va sur mes situations personnelles. Ma question est, il y a tellement de corps nocturnes dans cette ville assiégée et vous avez choisi justement celui des enfants, de ces enfants qui a eu une image si frappante pour vous. Mais ne serait-ce pas, vous avez parlé de la sensation d'épuisement qui serait le problème. Ne serait-ce pas le manque d'envie par l'autre et cela inséré dans le thème de notre colloque qui parle justement des ambiances urbaines. Et pourquoi dis-je, est-ce que j'ai dit cela? J'ai passé par une situation quand j'étais enfant. Ma mère voyageait beaucoup, nous la comprenions. Et en 1975, en Italie, nous avons perdu le vol d'avion et toutes nos valises ont été. Et il y avait de l'argent, des cartes de crédit et tout. Et nous avons dû vivre dans la rue pendant 3 jours. Et nous avons quitté l'aéroport et je me souviens que ma mère nous enveloppait dans du journal et pendant la journée nous allions à l'aéroport pour essayer d'embarquer de nouveau et nous retournions le soir. Enfin, c'était pas dramatique, ça fait longtemps, on avait presque rien à manger, mais enfin je fais partie de ce corps nocturne et ma question donc ne serait-ce pas alors justement cette sensation non pas d'épuisement, le manque d'envie de l'autre. C'est un défi de parler de choses si complexes en si peu de temps. Et j'avais l'intention de dire un tas de choses et j'ai dû les laisser de côté. Et je suis un peu anxieux parce qu'il me faut courir tellement et je n'ai pas eu le temps de poursuivre. Mais j'ai un grand souci dans ma préoccupation envers les autres. Justement, c'est si nous entrons dans une certaine proximité avec un discours moralisant, disons. J'ai souvent l'habitude de dire à mes élèves qu'on doit analyser le discours du berger. Le berger n'utilise pas de concept parce qu'il utilise avec, travaille avec des dogmes et il va dire à ses bêtes, respecter l'autre, il faut être gentil, c'est très bien ça, mais sur le plan académique, et je me soucie beaucoup du concept, c'est pour ça que je dis mon corps, celui-ci, la vie, c'est ça, mon intérêt pour le concept est basé non pas sur la préoccupation scientifique ou positiviste, mais c'est ma façon de marquer l'intensité de la différence. C'est très bon de savoir que dans le monde, il y a des centaines de façons de définir ce qui est l'amour, le concept d'amour, c'est ceci pour moi, c'est un autre pour l'autre, le concept d'amitié pour moi, c'est une chose, pour l'autre, c'est autre chose. Et c'est merveilleux d'avoir une polysémie de concepts d'amour et d'amitié parce que ça me permet de choisir. Mais dans un monde autoritaire, je vais apprendre que l'amitié, et c'est ça, l'amour, c'est autre chose. Et puis voilà, et dans le monde théorique, de l'amplitude de la pensée, de l'ouverture, j'ai toute cette gamme de choix. Alors pour moi, produire les connaissances, c'est augmenter les possibilités d'action, de choix, d'agir. Alors, plus c'est autoritaire et plus c'est violent, moins la vie aura des possibilités. Alors, la question du respect envers l'autre, je suis assez attentif à cela. Et là, j'ai une question. Je respecte l'autre pourquoi? Dans quel but? Ou comment? Parce qu'il y a des discours, on le sait, qui nous disent que nous devons tous être frères ou sœurs entre nous, nous devons respecter les autres. Mais nous sommes génocides par rapport à ceux qui ne sont pas nos frères ou sœurs. Je respecte donc ceux qui font partie de ma tribu, mais ceux qui ne sont pas humains, je ne les respecte pas. Ou alors, ceux que je considère comme pathologiquement inhumains, au lieu de les respecter, il faut que je les soigne. Et donc, je ne veux pas répondre spécifiquement à votre question, je n'ai pas cette prétention. Nous avons, ce sont des termes superficiels, mais mon opinion, le quotidien et la vie sont des endroits fondamentaux qui nous fondamentaux pour nous, pour que nous pensions dans nos relations avec les autres et la forme différente d'anéantissement des autres et des différences. Mon respect, à mon sens, le respect, la tolérance, le partage peuvent être des façons de détruire la différence également. Question. Pessoas precisam de sobrevisar as ambiências, porque eu me dei conta que, de certa forma, quando estamos falando de ambiências, estamos falando de arquitetura, de quadro arquitetural, estamos falando de formas urbanas, de formas muito naturalizadas do comportamento humano, ou seja, um fluxo de pessoas, de pessoas numa praça, mas que não questionávamos a questão da paixão política ou, eventualmente, ou qualquer manifestação na rua, e que temos, então, uma outra dimensão das ambiências que tem tendência a desnaturalizar as coisas que já não são mais as ambiências em que temos tendência a colocar à distância tudo que tem numa praça, mas sim ambiência nos sentimos, em que nos sentimos implicados numa situação. Eu gostaria, me parece que há aí uma pista para reflexão, o que é uma ambiência social, se tem sentido, alguma coisa, tem uma ambiência política, se convida mais a participar, ou se essa colocação à distância é sempre a mesma. Há algo em torno desta pergunta que também leva à estética, já que a distância também é uma forma de gerenciar a estética. Commentaire. On ne sait plus qui a dit ça, c'est Nathalie, je crois. Mais je crois qu'on. Je voudrais que la tribune réagisse. Je crois que nous discutons de cette dimension depuis ce matin. Je crois que nous en parlons depuis ce matin. Et si ce n'est pas de ça que nous parlons, alors je crois que c'est encore plus préoccupant. Parce que le niveau de nos codes de langage nous empêche de nous communiquer. Je ne sais pas si les intervenants ont cette même opinion. Et pour savoir si nous parvenons à nous communiquer entre nous, je vais demander à Virginie. La goutte d'or. C'est un espace public ou c'est un espace communautaire? Communautaire. J'ai cette question-là. Pourquoi est-ce que la goutte d'or... la goutte d'or, c'est un enclave ou est-ce un espace où on peut construire et reconstruire à chaque pause, à chaque arrêt, notre identité qui est consolidée et mise en question, et cette trépidation de la construction de l'identité, et nous sommes toujours en train d'être dans débattre. Je crois que j'ai trop parlé. Est-ce que je peux nous donner à parler de la difficulté de cette difficulté par rapport à la notion de résistance? J'ai des problèmes avec ça également, et je voudrais que vous développiez cela un peu plus, parce que Je n'ai rien à mettre à la place de cette idée. Et tout ce qu'on a fait, c'est mettre le mot micro devant. Je passe communautaire et un espace public pluraliste. Et un espace public pluraliste et intéressant assim mesmo. Em relação à geografia das cidades francesas, parisienses, temos uma situação oposta. Estamos no espaço central, em que se pode ir de metrô, de ônibus, não estamos longe do RER, as pessoas podem vir de todas as periferias, de todas as regiões, então uma grande diversidade. Então, do exterior, isso pode ser visto como um espaço comunitário de intimidade cultural, mas há mais de 40 nacionalidades que se confundem, que se encontram, que se renegociam, definindo fronteiras e categorias. Ou seja, é um espaço público definido por sua acessibilidade, que é muito diferente do território das periferias francesas, em que temos espaços completamente segregados, encavados, em que não se vai. Temos um espaço em que, se tiver um mercado, toda essa atividade pública vai estar muito ligada, evidentemente, à atividade comercial. Neste espaço, em relação ao que Nathalie estava dizendo, o que me interessou foi a dimensão interativa dessa ambiência. Foi o que teve uma força na interação e nesses vínculos frágeis, porque eles têm um efeito socializante, mesmo que sejam frágeis. E hoje de manhã já estamos falando dessa dimensão social, mas a dimensão ambiental veio depois pela leitura de Jean-François, Jean-Paul, etc. E eu abordei um pouco essa dimensão, mas muito pouco, e certamente haveria muito mais a se fazer e a aprofundizar, mas é realmente a questão da ambiência definida nas interações que passa por coisas que são pré-verbais, que estão, digamos, em relação à fonte e a língua, só vem como uma reação que está ocorrendo em direção ao início. Merci. Vous avez rappelé, j'ai continué à parler sans faire attention. J'aime beaucoup le mot micro-résistance, comme je l'ai dit. Je suis d'accord, je trouve que c'est très bien, c'est très beau. Et pour quelqu'un qui. Je trouve que c'est bien que quelqu'un qui travaille à l'architecture soit préoccupé de la micro-résistance et micro. Et je crois que ça doit être votre proposition, non pas comme quelque chose de petit ou moins important, mais quelque chose de différent. La micro-politique n'est pas une politique moindre, petite ou moins importante. C'est une autre forme de faire la politique qui peut être une interlocutrice d'une macro-politique. Ce n'est pas une question de hiérarchie. Alors, pour revenir à ma préoccupation comme chercheur, si je vois cette ficelle de ces enfants comme résistance à la police, parce qu'ils placent des ficelles pour résister à la police ou lui faire face, je vais épuiser cette action et la réduire à un fait réactif. Je réagis comme cela et cette ficelle peut me raconter un grand nombre d'histoires, peut me parler de solidarité sur le paysage, sur l'érotisme, soulever un nombre de questions. La notion, et je ne suis pas en train de jeter l'ordre du bébé et l'eau sale, disons, mais les sociologues et les psychologues, et même moi-même, quand nous travaillons sur ce concept de résistance, nous oublions d'utiliser l'expérience de l'autre comme étant notre propre expérience. Lui, il résiste, et moi, comment puis-je le faire, puisque je suis fait et constitué par des accommodations, disons, à toute cette présence de l'autorité. Pourquoi ? Qu'est-ce que la résistance peut m'apporter ? L'histoire du Brésil, par exemple. On a travaillé avec cette fallacie des héros et de la résistance. Ma génération a été formée pour cela. On a eu Zombie, Déodore, ces héros. Ensuite, on a eu les résistances de la vie quotidienne des années 70 et 80, quand dont on cherchait à voir comment les gens résistaient dans leur vie quotidienne. Mais, et quoi, ça n'entrait pas. Je parlais l'autre jour à une personne qui faisait sa maîtrise ou son doctorat, un contrat de travail avec des gosses qui vivent dans l'odeur de l'urine dans la rue, et vous faites un travail de recherche. C'est important que ces questions soient menées à l'école Saint-Ignace. Ça m'intéresse, moi, d'avoir un travail de recherche quand on travaille avec les pauvres et les misérables, quand on travaille avec une population des rues. Qu'apporte-t-elle d'intéressant pour ceux qui habitent dans les immeubles riches, les condominiums? Qu'est-ce qu'un gosse sale qui a la morve dans la rue peut montrer à mon fils qui est dans une école chère? Et j'aperçois là une opérationnalisation de l'altérité et une façon d'élargir le concept. Je crois que cette idée de résistance peut appauvrir cette idée de l'altérité. Alors pour moi, c'est une façon de ne pas faire de la résistance une question zoologique. Ah, on va au zoo pour voir comment agissent les éléphants, les girafes, les lions, etc. Je sais qu'il y a beaucoup plus de choses que ça, évidemment, par derrière cet article que, enfin, je ne sais pas, apparemment il va être publié sur... je peux entendre l'état de catatonique comme un état de folie, mais pas comme une résistance, plutôt comme une affirmation. Ça mérite beaucoup, et comme j'aime beaucoup la culture africaine, quand quelqu'un va sur les terrains descendants africains, ils disent que tout est une résistance aux blancs, et ils ne sont pas en train de résister à quelque chose, ils sont tout simplement en train de dénoncer leurs valeurs. Ce n'est pas une résistance paranoïaque, disons. C'est ce que j'appelle l'éthique de l'anonymat.